Essayiste, romancier, membre de la revue Art Press, vous publiez La Balance des Blancs, excellent titre. Récit aux éditions Seuil, point de départ, il est clinique. La clinique Saint-Jean-de-Dieu, 18 juin 2007. Une opération chirurgicale et sexuelle, puisque vous êtes atteint d'un cancer de la prostate. Et le chirurgien a pour nom, et vraiment ça n'arrive qu'à vous, Casanova. C'est une licence poétique ou c'est vrai?
Ah non, c'est vrai. D'ailleurs, je lui ai demandé quand même après quand j'ai commencé le livre, s'il acceptait que je... Mais, s'il avait dit non, j'aurais été... très embêté parce que ça introduisait évidemment le personnage de l'écrivain.
De l'écrivain, bien sûr, qui va irriguer tout le texte.
Qui est présent dans tout le livre et je joue tout le temps entre les deux personnages, quoi. Donc, mais enfin, très, très libéralement, il m'a dit non, allez-y, pas de problème, simplement vous me donnerez votre livre. Puis je lui fais quand même un petit peu de publicité.
Vous savez, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont ce problème. Casanova, et puis manifestement, tout s'est bien réglé en plus.
Oui, alors, très bien, parfait.
Parfait, tout va bien.
Les doigts de fée, je
pense. Oui, c'est écrit dans le texte. Alors à partir de là, le récit découpé en 13 chapitres déborde. Du côté du journal intime, de l'essai annexe et va digérer toutes vos obsessions littéraires qui reviennent. Hein. Ceux qui lisent les pages d'Art Press connaissent Casanova, Joyce, pictural aussi avec le Tintoret et Gauguin qui reviennent. Le texte déborde tellement qu'il dépasse les limites occidentales pour s'achever sur un hommage à l'Afrique et à la femme africaine. Bref, un texte à la dramaturgie pensée. On ouvre sur l'opération, atteinte sexuelle. On finit sur l'ailleurs des fesses de Lisa. Ce sont les derniers mots. Et au cœur du livre, mais exactement, vous exposez votre sexe avec un chapitre central sur le phallus, titré « Au cœur du phallus », placé au centre du texte. Le sexe, ou plutôt ce qu'en disent et ce qu'en écrivent les femmes de Pauline Réage à la vôtre, Catherine Millet. Pourquoi fallait-il poser ce regard des femmes, l'écriture des femmes sur le sexe, en passant par Duras aussi, au cœur même de ce livre?
La situation qui était la mienne fait que je me suis intéressé à cette question alors que j'avais aucune raison jusqu'à maintenant de m'y intéresser. Bon, on peut la pratiquer, on peut écrire dessus, mais bon, j'avais pas cette interrogation-là qui m'est venue d'un seul coup. Je dirais que on a souvent dit que la sexualité féminine était une sexualité qui posait des grands problèmes.
Le mystère.
On ne savait pas ce que c'était.
Un mystère.
Hein, le continent noir de la sexualité féminine. Les hommes se posent la question, qu'est-ce que c'est que la sexualité féminine? Qu'est-ce que c'est surtout que la jouissance féminine? Et je trouvais bizarre qu'on n'ait jamais posé la question. Les écrivains ou les psychanalystes ou les psychologues, etc., de ce qu'était aussi la sexualité masculine. Alors du coup, j'ai relu beaucoup d'auteurs, surtout des auteurs femmes, pour me rendre compte que, bizarrement, dans leurs livres, dans leurs écrits, la façon dont ces femmes parlaient du sexe masculin, et notamment du sexe en érection, était extrêmement stéréotypée. J'avais l'impression qu'elles n'avaient jamais regardé ou vu un sexe masculin en érection. Elles en parlent quand il est en détumescence. C'est très curieux. Je cite Breton qui disait d'ailleurs, elles auraient dû, les femmes de Breton, s'y intéresser, que lui ne pouvait se présenter devant une femme que quand il était en érection. Ce qui est très curieux. En même temps, c'est le même qui disait qu'il ne pouvait pas faire l'amour avec une femme noire. Ou en plus, que si une femme avait un accent étranger, alors là, c'était...
La débandade.
Il ne pouvait pas. Ce qui est quand même assez...
énorme.
Assez surprenant. Donc, toutes ces petites choses-là, quand même, ça m'a paru bizarre. Donc, j'ai relu beaucoup d'auteurs. Et je me suis aperçu, en effet, qu'elles n'avaient pas grand-chose à dire. Mais les hommes, pas plus. Sauf, je fais une exception, peut-être quand il s'agissait d'homosexuels. Et je cite notamment Pasolini, qui lui, alors quand il décrit elle, et c'est là qu'il est un écrivain, et c'est là où les autres ne sont pas des écrivains sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens visuel, lui, quand il parle d'un sexe masculin, je peux vous dire, il faut relire, c'est formidable. C'est décrit, c'est très précis, la forme, la couleur, etc. Bon, mais voilà, c'est une de mes... J'en tire pas de conclusion, hein, mais ça m'a frappé, ça, voilà.
Alors, pour mesurer, on va dire, l'étendue de ce récit qui fonctionne aussi du côté de l'essai, on pourrait s'en tenir aux quatre exergues qui seraient... des clés de lecture ou des parcours possibles dans l'œuvre. Je vais lire la première. La balance des blancs, donc c'est le titre, la balance des blancs garantit que les couleurs ne soient pas affectées par la couleur de la source lumineuse. C'est le guide d'un icône D80. Juste une question. En quoi cette notion technique va dépasser la métaphore pour être prise au pied de la lettre? C'est-à-dire que la balance des blancs, on va la mettre en relation avec la tentation africaine sur laquelle s'achève le livre, c'est-à-dire balancer les blancs. En quoi ça outrepasse la métaphore pour arriver à cela ?
Bon, je peux dire un mot quand même du titre, La balance des blancs. Je me suis rendu compte d'ailleurs que beaucoup de gens, y compris les éditeurs, ne savaient pas ce que c'était. Et même des gens qui font de la photo numérique ou de la vidéo avaient l'air d'ignorer ça, pas les professionnels. Alors moi, je savais que ça existait, je ne l'ai jamais pratiqué, pourtant je fais de la photo. Bon, ça harmonise, je crois, j'ai cru comprendre un peu les couleurs, voilà. Bon.
En gros, avant de commencer la prise de vue, que ce soit en vidéo ou en photo, on place met une feuille blanche à côté du sujet et on fait le réglage à partir de ça.
Voilà. Ah, oui. Et moi, à la fin, puisque vous parlez de cette femme africaine, je dis qu'à la fin, parce que dans une autre, c'est dans Wikipédia, je crois que j'ai trouvé ça, on explique que si on n'a pas une surface bien blanche, on peut faire ça sur la peau de sa main, quand même une main blanche. Et moi, je dis à la fin, et j'en ai ras-le-bol de tout ça, moi, je vais faire ma balance des plans sur les fesses noires d'une amie. Bon, et j'ai appris, alors peut-être vous le savez, mais qu'on vous faisait aussi la balance des noirs en technique.
Ça, je ne savais pas.
Alors donc, j'étais prémonitoire. Là,
formidable. Il s'agit de balancer.
Bon, donc, si vous voulez, le titre, je l'avais... C'est bizarre, les titres. Hein, en me réveillant un matin, comme ça, j'avais ce mot, la balance des blancs, en sachant ce que c'était. Et je dis donc à mon épouse, à côté de moi, je lui dis, mais c'est formidable, ça ferait un beau titre de livre. Mais sans avoir la moindre idée du livre que j'allais faire. Alors évidemment, après, quand vous faites le livre, c'est très compliqué, parce qu'il faut quand même arriver à remplir le titre. Bon. Mais tout de suite, quand même, le titre, le sens polémique du titre m'est apparu. Voilà. Balance des blancs, ça veut dire aussi, peut-être, c'est après avoir vécu cet épisode de la maladie, etc., que vous avez un certain ras-le-bol d'un certain nombre de choses. Bon. Alors.
Une sorte d'ethnocentrisme occidental.
Oui, et puis cette façon, j'en parle beaucoup, et ça peut-être c'est le deuxième exergue,
poète, écrivain.
Tous les écrivains qui ont été fascinés par l'Orient aussi. Hein. C'est-à-dire que toujours l'Orient.
Nerval, Genet, Barthes, ils y sont tous un meilleur.
Et on se rend compte quand on analyse bien la chose, c'est que tous ces gens, c'était pas tellement l'Orient ni le Soleil d'Orient, c'était des femmes qu'ils cherchaient, hein, avec. Souvent d'ailleurs beaucoup de déboires. Bon, et alors ça aussi, ça m'a un peu, disons, exaspéré. Je me suis dit, mais enfin, ça va, l'Orient, le ce va-et-vient comme ça. Il y a aussi un continent qui n'est pas l'Orient, qui est plus bas, là, noir, et c'est un continent. Continent noir, comme la sexualité féminine, qui est mal connue. Voilà. Et comme le hasard fait que je me suis promené, j'ai eu un voyage au Sénégal, le thème de l'Afrique est arrivé là, ce qui me permettait évidemment de donner un sens plus complet au titre La balance des blancs.
Alors je vais lire la seconde exergue. Cette balance européenne, républicaine, transportée à l'autre bout du monde, a parfois de ses revers de fléau, c'est Victor Segalen. Quand on choisit Segalen, c'est qu'on choisit un poète qui a écrit Le maître du jouir. D'ailleurs, je crois que le texte. Enfin, oui. Exergue vient du Maître du Jouir. C'est un texte sur le peintre Gauguin en relation avec sa case à Tahiti, sur lequel le peintre avait écrit en capitale La maison du jouir. Et là se dessine un autre parcours dans le texte qui va relier deux chapitres consacrés à deux peintres. Par ordre d'apparition dans le texte, il va y avoir Le Tintoret au chapitre Lumière de la peinture, Feu de Mérin. Et puis plus tard, Gauguin dans le chapitre La maison du jouir. Quel lien faites-vous entre les deux, puisque ce sont vraiment deux textes qui donnent une sorte de pôle du roman?
Le lien, c'est d'abord que ce sont deux peintres, deux grands peintres.
Et, sur lesquels vous avez souvent travaillé, par exemple dans La peinture du mal, oui, un de vos premiers textes en 83, il était déjà question de Tintoret.
De Tintoret, oui. Et en plus, ce sont des peintres qui aimaient les femmes et qui, évidemment, ont fait des portraits, des nus de femmes absolument sublimes. Donc voilà le lien. Dans le cas de Gauguin, évidemment, il y a l'aspect politique aussi qui m'a intéressé. La façon dont Gauguin a été traité par la République française, par l'Église aussi.
Qui vont brûler cette toile.
Qui vont brûler, puisqu'à la fin, à sa mort, on a retrouvé dans sa case des tableaux, pas pornographiques, mais enfin des portraits de femmes, des femmes maoris qu'il aimait tellement. Et à ce moment-là, les prêtres ont brûlé ces tableaux. Et puis surtout, il a été extrêmement pourchassé par la justice parce qu'il avait une petite tendance à défendre les indigènes qui étaient traités eux aussi dans des conditions terribles. Voilà. Donc c'était aussi un prolongement de mon combat anticolonialiste qui est quand même assez ancien.
Alors le Tintoret, je voudrais revenir sur lui parce qu'il permet vraiment de donner, enfin dans l'ouvrage, de donner lieu à un chapitre complexe d'un point de vue narratif. On a un journal fictif du tournage d'un film inspiré de la toile Suzanne et les Villières qui aurait été écrit en 2001 puis retrouvé par vous en 2007. Un dialogue entre Tintoret, son modèle, les personnages du tableau et vous-même. Qu'est-ce qui se joue dans ce tableau précisément pour qu'il autorise une telle effervescence narrative?
C'est évidemment que, bon, si vous voulez, on se projette toujours un petit peu quand on prend des personnages comme ça. C'est ça, c'est fait pour ça, hein, la littérature. Ce qui m'a intéressé, c'est que Tintoret est un peintre déjà âgé, qu'il a pour maîtresse une femme jeune. Et donc, la question, justement, alors de la virilité, qu'on peut trouver chez d'autres écrivains, je cite Romain Gary, par exemple, évidemment, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour un homme qui arrive à un âge où il ne peut plus honorer vraiment la femme qu'il aime? Bon. D'une certaine manière, tout ça est transcendé par son œuvre, par les toiles qu'il fait. Et dans le fond, à ce moment-là, disons que la jouissance sexuelle sublimée passe par d'autres voies, et notamment la voie de l'esthétique, la voie de la beauté.
Alors, il y a une autre dimension qui apparaît de façon épisodique dans le texte. Quand on écrit un récit, on a toujours envie, quand on le lit, de le mettre en relation avec les autres récits qui ont été publiés auparavant. Et je voudrais mettre donc en perspective ce récit avec Politique. C'était un récit autobiographique en 2008 de votre rapport à la politique, votre passé, votre engagement communiste. Ici, on est au cœur du phallus. Quel lien on pourrait faire entre Politique, donc ce texte, dont il est question ici, puisqu'il y a un seul chapitre qui est consacré à la politique? Le titre du chapitre, c'est « Combien de temps met une femme pour mourir d'une balle dans la tête ?» Et on a le sentiment que ce chapitre, qui est placé de façon stratégique dans le texte, serait comme un appendice de Politique, le récit publié auparavant.
Oui, tout à fait.
De quoi est-il question d'abord, avec véritablement cette histoire qui aurait dû apparaître dans Politique?
Oui, mais le problème, c'est que ce que je disais dans Politique, c'est qu'on avait un problème de mémoire en France et surtout de connaissance. Les archives n'avaient pas parlé encore. Elles parlent de plus en plus maintenant. Donc si j'avais eu connaissance de cette anecdote...
Cette femme donc tuée par ses amis communistes.
Oui, je l'aurais vraiment intégrée dans Politique. Mais c'est le hasard. Hein. En entendant justement une émission en France Culture, un matin, j'entends une femme qui raconte ce qui est arrivé à sa mère. Et elle raconte donc cette histoire qui a donné ensuite naissance à un livre alors très documenté. Il y avait pendant la guerre, pendant l'occupation, le Parti communiste avait un groupe qu'on appelait le groupe Valmy, qui avait pour mission d'assassiner des soldats allemands et des collabos, hein, des gens de Vichy. Bon. Seulement, ils avaient aussi pour mission, de façon, ça c'est la paranoïa de l'époque, de liquider les traîtres. Et parmi les traîtres liquidés, il y a eu l'histoire de cette femme, il y en a eu bien d'autres, et j'en raconte évidemment les circonstances qui sont absolument terribles. Évidemment, ça n'était pas du tout pour des raisons de trahison. On croit comprendre que c'était une belle histoire de cul. Donc, de toute façon, ça trouvait encore en plus cette espèce de dinguerie comme ça sexuelle. Ça trouvait sa place dans le livre. Voilà.